sur le
On espérait un dénouement ce soir, mais le mystère s'épaissit encore un peu plus autour de la mort du petit Émile. Il n'y a plus de suspect, enfin en tout cas à notre connaissance. Les grands-parents, l'oncle et la tante sont pour l'heure hors de cause. Pourtant, on a aujourd'hui la certitude qu'il y a eu l'intervention d'un tiers, comme l'a détaillé le procureur tout à l'heure lors de sa conférence de presse.
Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil.
En clair, il ne s'est pas perdu dans les environs du Haut-Vernay. Il y a eu une mise en scène, ses ossements ont été déplacés. Alors, où Émile a-t-il été tué? Son corps a-t-il été conservé dans le hameau pendant plusieurs mois? Qui est ce tiers dont parle le procureur? Il y a beaucoup de questions qu'on va évoquer ce soir avec nos invités. Alexandra Gonzalez, chef adjoint du service police-justice de BFM TV. Boris Karlamov, notre journaliste police-justice de BFM TV. Vous avez suivi l'affaire Émile depuis le début. Vous connaissez parfaitement cette affaire et vous revenez tout juste justement du Haut-Vernay. Laurent Valliguier qui est avec nous, notre consultant police-justice. Randall Schwerdhofer, avocat pénaliste au barreau de Besançon. Christian Flech, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Et général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes notre expert en plateau parce que ce sont ces expertises aujourd'hui qui ont amené à ces conclusions. Et on va détailler tout ça dans un instant. Mais avant, j'aimerais qu'on retrouve Pauline Sarafi. Bonsoir Pauline, vous êtes au Haut-Vernay où on a vécu un ascenseur émotionnel depuis 48 heures. Quel est le climat après ces révélations?
Écoutez, beaucoup de sentiments partagés, hein, même si vous l'imaginez, celui qui prime, eh bien, c'est celui de la déception, de la sidération et parfois quand même du soulagement. La déception d'abord parce que les habitants du Haut-Vernay espéraient que le procureur aurait apporté de nouveaux éléments qui auraient pu, eh bien, lever une part de mystère sur ce qu'il s'est passé le 8 juillet 2023, la date à laquelle Émile a disparu. Mais à ce sentiment de déception, eh bien, s'ajoute aussi le soulagement, notamment ce matin, lorsque l'on a vu les quatre membres de la famille d'Émile sortir de garde à vue sans poursuite judiciaire. Beaucoup ici espèrent voir la théorie du drame familial écartée. Au Haut-Vernay, cela fait maintenant 20 mois que l'on vit au rythme de cette affaire, que chaque petit rebondissement vient en quelque sorte briser le silence, le calme qui régnait ici. Depuis le début, les habitants ont pris l'habitude de se murer dans le silence. Très peu parlent encore aux journalistes. Et quand ils le font, eh bien, maintenant, ils évoquent un certain sentiment de lassitude. Je vous laisse écouter une d'entre eux. C'était cet après-midi au micro de Théo Bassilana et de Willem Gay.
On en a marre qu'à chaque rebondissement, il y ait des journalistes partout et qu'on perde un peu notre tranquillité. Surtout qu'il n'y a rien à dire. C'est vrai que là, j'ai plutôt l'impression que tout le monde s'enferme et tout le monde évite de sortir de peur de se faire sauter dessus parce qu'il n'y a rien à dire. On espère tellement connaître la vérité que, ben, à chaque fois, on retombe de 10 étages et ça, on est vraiment épuisé dans le village de tout ça.
Hier encore, des véhicules de la gendarmerie circulaient dans le hameau, prévenus par les habitants qui leur demandaient, eh bien, de chasser des journalistes. Ces habitants qui n'ont pas de réponse et qui, comme tout le monde, espèrent, eh bien, que le mystère autour de la disparition du petit Émile Soleil soit bientôt résolu.
Merci Pauline Sarafi avec Julie Roser. Boris Karlamov, c'est l'enseignement de la journée de cette conférence de presse du procureur. On a la confirmation qu'il y a eu l'intervention d'un tiers. Mais ça ne dit pas, en revanche, si la mort de l'enfant est accidentelle ou volontaire.
Oui, absolument. Il y a encore une inconnue à ce niveau-là. On ne sait pas qui a tué Émile à l'heure où l'on se parle. Est-ce qu'il a tué de manière volontaire ou involontaire? On ne sait pas où Émile a été tué. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais on a peut-être le début d'une réponse, puisque jusqu'à présent, il y avait trois pistes sur la table. L'homicide involontaire, un accident, Émile qui est renversé par un tracteur, et puis le le conducteur du véhicule dissimule le corps. La piste de la chute, Émile, qui avait pour habitude de crapahuter dans ce massif des Alpes de Haute-Provence, avec les fortes chaleurs de ce mois de juillet 2023, il aurait pu mourir déshydraté ou se cogner la tête. Et puis il y a le crime d'opportunité, la personne qui passe par hasard dans ce coin-là du département et qui commet l'irréparable. Mais pour cette dernière hypothèse, elle est peu vraisemblable aujourd'hui, puisqu'on ne passe pas par hasard justement au Vernet. Pour se rendre là-haut, à 2 km de la partie basse du village, il faut vraiment connaître les lieux. Il n'y a qu'une seule route, c'est en vase clos. Aucun échappatoire entre guillemets. Tout le monde se connaît, une vingtaine d'habitants à l'année. Lorsque vous arrivez au hameau du Haut-Vernet, à peine 2 secondes avant que les gens ouvrent les fenêtres pour savoir qui est là. C'est vraiment un tout petit endroit, c'est une sorte de bulle assez paradisiaque, puisqu'on est dans un coin qui est tout juste magnifique, et c'est vrai que ça ajoute quelque chose, un piment supplémentaire à cette affaire. Mais aujourd'hui, voilà, on a peut-être un début d'explication, mais à côté de ça, peut-être encore plus de questions qu'auparavant. Est-ce qu'il va falloir tout recommencer à la fois pour les enquêteurs que pour les journalistes? Est-ce qu'il va falloir auditionner toutes ces personnes qui l'ont déjà été il y a maintenant 20 mois? Bref, un mystère qui s'épaissit peut-être encore plus qu'avant.
C'est vrai qu'il y a une multitude de questions qui se posent après ces expertises qui ont été menées sur les ossements. Et c'est ça aujourd'hui qui a permis au procureur de donner certaines conclusions, notamment l'intervention d'un tiers, le fait que ces ossements aient été déplacés. Et puis, peut-être des précisions sur les circonstances de la mort d'Émile. On apprend aujourd'hui via le procureur que le crâne a reçu un choc. Il parle d'un traumatisme facial violent. Est-ce que c'est ça qui a causé la mort du petit garçon? À ce stade, on ne peut pas le conclure.
Alors, même ce légiste ne pourrait pas le conclure. Il est évident qu'un choc massif facial, très certainement, même sans être médecin légiste, même un médecin légiste irait dire très certainement. Mais comme on n'a pas le reste de la dépouille, le médecin légiste ne peut pas se prononcer définitivement. En tout cas, ça a participé largement à son décès. Et derrière, un tel fracas facial peut avoir plusieurs causes. Vous avez effectivement le coup volontaire là-dessus, mais on peut avoir aussi une chute de l'enfant qui jouait sous la surveillance de quelqu'un, par exemple, et qui tombe d'un rocher ou qui tombe d'un arbre. On peut avoir un jeu qui s'est mal terminé, et on peut avoir aussi l'accident parce que ça a été cogné, un véhicule ou autre, qui fait que...
Et ça, on peut le déterminer pendant les expertises?
Alors, on a essayé. Par exemple, on a essayé de voir si il y avait un reliquat de matière qui constitue des pare-chocs. Et pour voir s'il y avait eu un choc avec un véhicule ou autre. Sauf que il y a plus de peau, il y a que le crâne. Et sauf à ce qu'il y ait eu un morceau qui se soit enfoncé, là qui aurait pu apporter déjà un début de réponse, on ne peut pas. On est encore sur des supputations par rapport à qu'est-ce que c'est qui a pu causer cette blessure. Et j'ai même entendu dans un petit peu autour de l'enquête que il faut pas oublier qu'il y a des chevaux en liberté, et un tel fracas peut être fait par le sabot d'un cheval.
Donc toutes les hypothèses sont possibles autour de ce traumatisme.
Sont ouvertes là-dessus.
La chose qu'on peut dire avec certitude, parce que le procureur ne l'a pas dit tout à l'heure, quand on parle de traumatisme, ça veut dire que ce coup a été reçu avant la mort de l'enfant.
Tout à fait, violent. Sans ça, c'est pas un traumatisme, ce sont des fractures post-mortem, ou des fractures, des fêlures post-mortem.
Je pose cette question parce que le procureur, Laurent, quand il avait donné une conférence de presse juste après la découverte des ossements, avait dit, on a découvert notamment ce crâne, et il disait, voilà, il y a des petites fissures dessus, post-mortem, et qui sont probablement liés à des animaux qui seraient passés par là. Alors déjà, moi j'ai plusieurs questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le procureur ne parle pas de ce traumatisme facial violent? Comment ça se fait qu'on ne l'a pas perçu dès le début?
Ça, parce que probablement c'était trop petit à l'œil nu. Hein. Parce que là, on ne sait pas quelle est la surface de ce que le général Daoust appelait le fracas.
Voilà.
Le fracas, c'est sur le crâne. Parce que là, il faut voir qu'il part d'un crâne, simplement, d'un crâne d'un enfant. Donc, est-ce qu'on sait la surface de ce fracas? Et puis, comme le demande Perrine, comment on est passé de
petites fissures visuelles
à effectivement un coup?
Quand le procureur a fait la première conférence à la suite de la découverte, toutes les expertises ne sont pas terminées. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on a le temps long des expertises, les résultats qui arrivent, et pas de correctif du procureur, parce que derrière, mais ça fait partie de la stratégie d'enquête, de ne pas donner d'éléments supplémentaires à l'extérieur qui pourraient mettre en péril la recherche d'indices, de preuves ou de témoignages.
Donc volontairement, potentiellement, on a retenu cette information. Christian Flech, vous
Il est possible que les deux coexistent.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'au moment où le procureur, au moment où le corps est abandonné, il a un fracas, manifestement. Oui. Et au moment où il est retrouvé, il peut avoir des griffures parce qu'entre-temps, des animaux sont passés.
Mm-hmm. Très peu de temps.
C'est possible.
Oui, mais c'est possible.
Et le fait de ne pas évoquer ce traumatisme facial crânien violent au moment de la découverte des ossements, c'est aussi peut-être pour pouvoir observer. Ils étaient 17 personnes au moment de la remise en situation, des habitants et des membres de la famille qui se trouvaient là. 17 personnes qui, forcément, ont été pendant les mois d'enquête sous le regard, on va dire, acéré des enquêteurs pour savoir s'il y avait une conversation, des comportements particuliers, une attitude, des choses qui pouvaient ressortir et qui pouvaient amener, qui pouvaient corroborer les expertises scientifiques et mener vers quelqu'un. Et le procureur a peut-être volontairement gardé cette information pour voir si cela suscitait quelque chose chez des personnes de ce village, en tout cas celles qui se trouvaient là au moment de la disparition.
Peut-être qu'il était déjà au courant au moment de cette conférence
bien
de presse
et
qu'il ne
bien
l'a
sûr.
Pas dit. Effectivement,
pas parce qu'il a dit dans son conférence de presse ce matin qu'à la suite des expertises qui sont rentrées il y a peu, il avait élargi l'enquête au cas d'homicide volontaire et de recel de cadavres. Ça veut dire que c'est sur la base de ces examens récents qu'il a élargi à l'idée qu'il y avait eu un homicide volontaire dont il peut penser que c'est le coup violent, et ensuite le recel de cadavre parce que le corps a été manifestement manipulé, posé où il était, mais surtout déshabillé ou rhabillé.
Et ce qui correspond à ce qu'il a dit, c'est-à-dire que ce sont des expertises qui ont été longues, complétées au fur et à mesure, et quand on a le déclenchement de la garde à vue, eh bien c'est que pour eux, une partie, en tout cas pour les juges d'instruction, une partie du dossier est arrivée à maturité pour poser certaines questions et vérifier certes tout ce qu'il peut y avoir derrière d'incohérent, mais là il y a dans le dossier des éléments qui sont suffisants pour amener le trouble pendant une garde à vue.
Et c'est d'ailleurs ce qu'il a expliqué, il disait voilà, pour justifier ces gardes à vue des grands-parents, de l'oncle et la tante, il fallait purger cette hypothèse familiale par rapport à tous les éléments dont ils disposaient. Piste familiale qui n'est néanmoins pas refermée. Pour autant, les grands-parents, l'oncle et la tante, donc, sont ressortis libres à 7h. Il n'y a pas de charges qui ont été retenues contre eux. Et ils se trouvent au domicile familial de la Bouilladise, dans les Bouches-du-Rhône, où vous vous trouvez, Pierre Barbin, et où les parents d'Émile se sont rendus aujourd'hui.
Oui, on a vu les parents d'Émile, Marie et Colomban Soleil arriver ce matin aux alentours de 8h avec leur véhicule, accompagnés de leur bébé de quelques mois seulement. Quelques minutes plus tôt, on sait qu'à l'issue de leur garde à vue, les grands-parents sont d'abord retournés chez eux à la Bouilladise. Ils semblent être sortis de manière plutôt mystérieuse parce que nous les avons vus revenir à leur domicile en 4x4 aux alentours de 19h30, les grands-parents d'Émile, donc Philippe et Anne Vedovini, qui sont donc rentrés chez eux. On sait aussi qu'ils étaient, notamment le grand-père, et ils étaient à leur domicile parce qu'il y a une photo qui est apparue où on voit Philippe Vedovini dans le jardin, entouré de ses enfants et de son chien, profiter donc de ce moment après 48 heures de garde à vue. On voit donc que la famille reste unie, soudée, comme c'est le cas à chaque épreuve depuis le début de cette affaire. Une épreuve nouvelle donc pour cette famille qu'ont été ces deux jours de garde à vue, harassant, fatigant, dans les conditions que l'on imagine, avec de nombreuses auditions, souvent en pleine nuit. Les avocats de ses grands-parents, de Anne et Philippe Vedovini, nous confiaient leur extrême fatigue à l'issue de ces deux jours, de l'épuisement donc, mais aussi et surtout du soulagement de ressortir libre sans aucune poursuite judiciaire. La famille se retrouve, donc digère ensemble ce moment avec une volonté commune aujourd'hui de savoir enfin la vérité sur ce drame et sur savoir comment est mort le petit Émile.
Merci Pierre Barbin avec Camille Martin. Boris Karlamov, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au début de l'enquête de ce clan familial très soudé. On rappelle qu'ils ont 10 enfants, qu'ils ont beaucoup de petits-enfants. Et puis, on a évoqué ces derniers temps des dissensions au sein de la famille, notamment pendant les obsèques. On avait vraiment l'impression qu'il y avait deux clans familiaux qui se faisaient face. Et là, aujourd'hui, on voit cette famille qui fait bloc finalement face aux accusations dont les grands-parents ont pu être l'objet et face au poids du soupçon aussi qui peut demeurer malgré tout dans le voisinage ou chez les habitants du Haut-Vernay ou de la Bouilladise.
Oui, une famille qui visiblement est à nouveau réunie. Vous parliez des obsèques, j'avais pu couvrir ces obsèques début février à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, et c'est vrai que la famille d'Émile est arrivée totalement divisé. Les Vedovini sont arrivés en premier, sont suivis les Soleils, donc du côté de Colomban. Vedovini, c'est Marie, c'est donc la maman d'Émile, qui était âgée de 26 ans, on va la rappeler, hein, au moment de la disparition. Et le grand-père n'a absolument pas salué les membres de la famille Soleil. Il était posté devant la basilique, à fumer cigarette sur cigarette, à ne faire la bise qu'à sa propre famille. Pas de bise à Colomban, pas de bise à Marie. Même situation pour Anne, la grand-mère maternelle du petit Émile, qui est arrivée toute seule également. Et tout le monde est reparti dans des sens, dans des directions différentes. Là, on avait pu sentir vraiment une extrême tension au sein de cette famille, avec des attitudes différentes, une attitude qui nous a paru assez étrange, celle de Anne Vedovini lorsqu'elle a quitté cette basilique. On était posté à quelques mètres d'eux avec de nombreuses caméras, et lorsqu'elle passe devant nous, elle nous fait coucou en souriant. On est en sortie d'obsèques, ça nous a quand même assez marqué. Puis le grand-père nous adressait des sourires. Parfois, on avait l'impression qu'il hésitait un peu à venir nous voir, mais qu'au dernier moment, il reculait et puis il quittait la basilique. Mais là, avec les images qu'on a pu voir et cette première photo du grand-père d'Émile, on a l'impression que la famille est en train de refaire union, entre guillemets, de refaire unité après l'épreuve qu'ils ont vécue. C'est vrai que la phrase à retenir à l'issue de ces gardes à vue, c'est celle du grand-père d'Émile qui a demandé à son avocate, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Ça nous a été transmis par Valentin Doyen, maître Colombani, qui lui a dit, mais monsieur, maintenant rentrez chez vous, tout simplement.
Randall Schoenhofer, est-ce qu'on peut rentrer chez soi comme ça, reprendre sa vie d'avant? Parce que la garde à vue, c'est une épreuve qui est éprouvante pour tout le monde. Là, les accusations sont très graves. Et en plus de ça, c'est des accusations au sein du cercle familial.
J'ai le souvenir d'une personne qui venait de se faire acquitter, qui me regarde et qui me dit « Alors, je retourne en prison ?» Alors qu'on venait de lui dire « Monsieur, rentrez chez vous, vous êtes innocent. » C'est très compliqué parce que la machine judiciaire, c'est écrasant. 48 heures de garde à vue, on ne se rend pas compte. Nous, on les vit en tant que professionnels, c'est déjà très difficile. Quand vous les subissez dans les conditions où ça se passe, même quand ça se passe bien, c'est quelque chose de très psychologiquement très violent. Donc, reprendre une vie normale, c'est extrêmement difficile. Pour des personnes, il n'y a pas de charges retenues contre eux, qui sont innocentes, en tout cas qui sont présumées innocentes, et on peut tout à fait imaginer aussi qu'ils sont innocents, totalement innocents, c'est ultra violent. Et on en a parlé hier sur votre plateau, et d'ailleurs, je trouve que le traitement qui a été réservé à cette affaire a été extrêmement prudent, notamment hier, et tant mieux, puisque vous avez vu les résultats de cette garde à vue. Heureusement que tout le monde a été prudent. Je pense que se reconstruire après ça, il y a eu le deuil. Quand vous avez perdu un enfant ou un petit-fils, qu'en plus vous êtes pointé du doigt, vous êtes accusé, vous savez que la France entière vous regarde, qu'ensuite vous retournez chez vous, il y a effectivement, alors Boris, je t'apprécie, mais c'est vrai que j'imagine que ça doit être une souffrance terrible de voir tous les journalistes autour de cette maison. On essaye de se recueillir, on essaye de se calfeutrer. Reprendre une vie normale, ça doit être très, très, très difficile.
Et surtout,
ça a fait beaucoup de mal, je pense.
Et surtout qu'on n'a toujours pas le ou les coupables, le ou les responsables. Donc il y a un énorme point d'interrogation et on n'évacuera pas le poids du soupçon aussi facilement.
Non, surtout que le procureur a dit que la piste familiale n'était pas refermée. Et qu'ensuite, évidemment, la façon dont on peut comprendre comment ça s'est passé, que le corps a été transporté à 2 kilomètres de là, c'est forcément quelqu'un du coin.
Forcément quelqu'un du coin, vous dites. Beaucoup de pistes, beaucoup d'hypothèses qui sont sur la table ce soir. On va les évoquer ensemble. Une certitude, en tout cas, Émile ne s'est pas perdu dans la montagne. A-t-il été tué accidentellement ou volontairement? On ne le sait pas. En revanche, les expertises permettent donc d'affirmer qu'un tiers est bien intervenu, que les ossements ont été déplacés, que le crâne présente les traces d'un traumatisme facial violent.